Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, les finalistes de Rutshuru au Nord Kivu ont finalement passé l'épreuve des dissertations hier, bien que tard en fin d'après-midi. D'autres centres n'ont pas ouvert malgré tout. En effet, ces épreuves n'ont pu se tenir plus tôt hier, Rutshuru étant occupé par le M23. C'est après des heures de tractations que les finalistes déjà désespérés ont passé leur examen. Au sud Kivu, 15 morts à la suite des fortes précipitations dans les territoires de Fizi dans la nuit de samedi à dimanche. Les députés élus de la circonscription électorale de Fizi, Maloumbi Mathieu, sollicitent l'intervention du gouvernement provincial et des humanitaires. L'invité de ce journal nous vient de Kisangani dans la province de la Tchopo. Il s'agit de M. Mokhtar Anne, chef de bureau de l'UNICEF Kisangani. Il revient sur l'adoption et les mécanismes de mise en œuvre du plan de travail de l'UNICEF exercice 2023-2024 dans les provinces de Tchopo et Bazouélé. Bonjour, ce journal part du Nord Kivu. C'est finalement hier lundi vers 16 heures locales que certains finalistes de Rutshuru ont passé l'épreuve des dissertations, alors que d'autres centres n'ont pas ouvert en dépit de cet appel à l'ouverture. Cela après presque une journée de tractations. Les responsables de l'EPST déployés dans différents centres de Rutshuru ont été rappelés d'urgence par les autorités provinciales. C'était à la grande déception des candidats finalistes déjà désespérés. Réunis d'urgence, hier, les autorités provinciales et les responsables de l'EPST assurent que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de cette épreuve dans cette région sous occupation des rebelles du M23. Denise Loukesso.
La décision d'ouvrir les centres de passation a été prise à l'issue de la réunion d'évaluation tenue hier à Goma par les autorités provinciales et les responsables de l'EPST. Et c'est vers 17h que certains finalistes qui avaient déjà regagné leur village sont arrivés dans les centres de passation de cette épreuve à Kiwanja et Rutshuru au centre après avoir passé toute la journée sans espoir. Une épreuve qui s'est déroulée sans concentration, disent certains candidats. Le député provincial de Rutshuru, Elin Zani, qui a pris part à cette réunion, rassure que les dispositions sont prises.
Les finalistes de Rutshuru, ils ne doivent plus s'inquiéter. Maintenant, de cet après-midi ou dès demain matin, il y a des équipes qui seront déployées partout parce qu'à Rutshuru, il y a un centre. Tous ces centres-là vont organiser les examens, d'autant plus que les kits sont déjà sur les lieux et les équipes sont là. Il y a des dispositions qui sont déjà prises pour que les examens se passent normalement partout et sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu.
Si certains centres au chef-lieu du territoire ont ouvert hier, nous apprenons que ceux de Roubaré, Ishacha, Niamilima devraient passer la dissertation aujourd'hui, au deuxième jour de cette épreuve prévue pour l'oral des Français. D'autres centres encore ont été délocalisés vers Kanyabayonga et Walikale. Goma, Denis Lukeso, Radio Kapi.
Pendant ce temps, au Kwilu, plus de 15 200 candidats, dont plus de 6 900 filles, participent aux épreuves de hors session de l'examen d'État édition 2023-2024 dans l'ensemble de l'EPST Kwilu 1. Comparativement à la session passée, l'inspecteur principal provincial de cette province éducationnelle note une diminution de plus de 1 100 élèves finalistes, soit une baisse de taux de participation de 7%. L'insécurité de la milice Mobondo dans les territoires des Bagata et les contraintes financières sont parmi les causes de cette situation. C'est ce qu'a déclaré Jean-Pierre Kasonga à l'occasion du lancement officiel de ses épreuves lundi à Bandunduville. Jean-Pierre Kasonga s'est confié à Irène Mbomaluzolo.
Si nous pouvons retenir le principal ou l'essentiel de ces causes, c'est que nous avons d'abord l'insécurité qui est connue de tout le monde, qui existe dans une partie de notre province éducationnelle, dans le secteur de la Wamba là-bas. Nous avons des écoles, nous avons des centres d'examen là-bas et nous connaissons les conséquences que cette insécurité-là a eu sur les activités scolaires. Ça, c'est une première cause. La deuxième, c'est la difficulté que bon nombre de parents, un certain nombre de parents, s'il faut dire ainsi, ont éprouvé pour s'acquitter des frais d'inscription de leurs enfants à l'examen d'État. S'acquitter en temps voulu, puisqu'il y a eu un temps. Et qu'il fallait agir conformément en respectant. Un certain nombre de parents n'ont pas plus facilement de moyens pour payer ces frais-là exigés pendant ce temps-là qui était voulu et permettre ainsi à leurs enfants d'être inscrits.
Du côté des Matadi, près de 56 000 finalistes participent à ces épreuves dans plus de 150 centres organisés à travers la province du Congo central. L'inspecteur général adjoint au ministère de l'EPST qui a procédé au lancement de ces épreuves à l'épée longue des Matadi a appelé les participants à se méfier des faux items qui circulent sur les réseaux sociaux comme étant une fuite des questionnaires de l'examen d'État. Godefroy Katoto affirme que ces items ont été produits par des informaticiens véreux dans le but de désorienter les finalistes. Nana Plurich Mambou, reportage.
Les épreuves de la hors-session de l'examen d'État lancées à l'école primaire Londe de Matadi se déroulent sans souci majeur dans les trois provinces éducationnelles du Congo central. L'inspecteur général adjoint au ministère de l'EPST qui les a lancés en présence des autorités provinciales et éducationnelles du Congo central a dans son adresse appelé les participants à s'abstenir de prendre en compte les soi-disant items de l'examen d'État qui circulent sur les réseaux sociaux. Godefroy Katoto.
Attention, sûrement parmi vous, il y en a qui ont vu hier sur les réseaux sociaux un texte qui circulait, cahier d'item 2024, fuite examen d'État hors session. Il n'en est rien parce que vous allez vous rendre compte que nous sommes au Congo central 1, nos amis qui sont à Mwanda n'auront pas le même sujet que nous et ce que vous avez vu dans le réseau, tout le monde peut le faire, l'ordinateur est là, on peut bricoler et on vous présente n'importe quoi. Méfiez-vous.
Signalons qu'au premier jour hier lundi jusqu'à ce mardi, deuxième jour de ces épreuves de la hors-session de l'examen d'État, les autorités du secteur de l'éducation n'ont pas pu mettre les macarons d'accès à la disposition des participants. Les contrôles s'est fait sur base de la carte d'élève. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Et pour clore ces dossiers, la province de Maniema a enregistré 21 248 candidats finalistes répartis dans 78 centres pour les deux provinces éducationnelles. Au premier jour de ces épreuves, les deux directeurs éducationnels confirment qu'aucun incident majeur n'a été enregistré. Toutefois, l'inspecteur principal provincial de Maniema 1 fustige la baisse sensible des candidats finalistes par rapport à l'année dernière. Quinze personnes ont péri après les fortes pluies dans le territoire de Fizi dans la nuit de samedi à dimanche. Les députés élus de la circonscription électorale de Fizi, Maloumbi Mathieu, sollicitent l'intervention du gouvernement provincial et des humanitaires. Il est dit au micro de Jean Kassami.
Cette population-là est dépourvue presque de toutes choses. L'eau qui a déferlé dans le village a emporté les maisons. Et vous voyez, c'est un incident qui s'est produit pendant la nuit. Il y a une famille qui a perdu 8 personnes, les enfants sauf la maman qui était sauvée. C'est triste. Et nous demandons donc au bureau de l'Assemblée provinciale d'aller demander au gouvernement provincial de voir de quelle manière cette population-là doit être assistée, mais aussi les humanitaires qui sont dans la province, de s'approprier ces cas-là. Il y a aussi la famine parce que cette pluie a englouti même les champs. Et d'où il faut une intervention. L'assistance doit se focaliser sur les vivres et les non-vivres. La situation est désastreuse. D'où la volonté des bonnes personnes qui doivent aller d'une manière ou d'une autre assister cette population-là. Nous demandons aussi aux humanitaires qui sont dans la province de s'approprier ces cas-là pour aller assister cette population qui est presque abandonnée.
Autre nouvelle, après la fermeture définitive ce lundi de la base de la MONUSCO à Mushimbakiye, dans la ville de Baraka, plusieurs engins, camions et porte-chars des casques bleus pakistanais de la MONUSCO ont commencé à quitter ce mardi matin la ville de Baraka en direction d'Uvira. Le maire de la ville de Baraka a été présent à Mushimbakiye pour observer ces départs après 20 ans de la présence de la MONUSCO dans cette région sud du Sud Kivu. Fiston Goma Mayabala.
Ces départs, longtemps entendus par la population civile locale, se fait en douceur et sous la supervision du maire de la ville de Baraka. Jacques Mbocho Houssen sensibilise les habitants de collaborer tout le long du parcours de ces convois de près de 30 véhicules de casques bleus entre Baraka et Uvira. En dépit de plusieurs sensibilisations faites sur ces départs, la douleur de séparation semble être plus forte aussi bien au niveau des habitants, des autorités locales que des humanitaires intervenant dans la zone. Le modérateur du réseau local de protection des civils, Yves Ramazan ou Ramazani.
La MONUSCO facilitait beaucoup les transports, comme le médicament. Mais aujourd'hui, avec la route qui est dans un état de développement avancé, puisque la partie où vire vers Baraka, c'est catastrophique. Donc, s'il y a un dégât qui peut surgir aujourd'hui, c'est catastrophique. Seulement, nous avons confiance au gouvernement. Ils doivent assumer leurs responsabilités pour que cette situation cesse.
La première phase du plan de désengagement signé en novembre dernier avec le gouvernement congolais prévoit le retrait de la MONUSCO au sud Kivu au plus tard fin juin 2024. Le chef du sous-bureau de la MONUSCO Uvira, Kassim Ibamba, souligne que toutes les bases militaires devraient être fermées au 30 avril dernier. Cependant, le processus, surtout dans les hauts plateaux, est confronté à un sérieux problème logistique lié à l'évacuation des engins par la route. D'Uvira Fiston Ngoma Mayaba, la radio Okapi.
En Ituri, 3 personnes ont perdu la vie lundi et d'autres personnes blessées et prises en otage dans une attaque lundi soir de rebelles ADF à Kiabaganza dans la chefferie de Bahemaboga au sud du territoire d'Irumu. D'après des sources coutumières, de nombreux habitants ont passé la nuit en brousse. D'autres ont trouvé refuge dans les entités voisines, notamment à Bwarani, un village proche. Les forces conjointes FRDC, armée ougandaise, poursuivaient ce mardi matin l'opération des traques de ces rebelles dans la zone. Les points avec Jean-Claude Lokidile.
C'est vers 10h qu'un groupe d'hommes armés investit le village Kiabaganzi à environ 3 km du centre commercial de Boga, explique Tabaro Kato 2, le chef de l'entité. Pour ne pas attirer l'attention des militaires des FADC et de l'armée ougandaise qui sont à la périphérie, il décide d'opérer à l'armée blanche plutôt qu'avec des fusils de guerre. C'est en ce moment qu'une femme et son mari, avec une fillette, sont tués dans leur maison à la machette, poursuit cette autorité coutumière. Elle ajoute que dans sa fuite, une femme a été grièvement blessée à l'abdomen. Elle est acheminée par des jeunes dans une structure sanitaire où elle est prise en charge, apprend-on d'autres sources. Alertée par des tirs d'armes, les forces conjointes armées congolaises et ougandaises descendent sur le lieu pour sécuriser la population. Ces rebelles ADF ont réussi à kidnapper une fillette de 10 ans qu'ils ont emmenée vers une destination inconnue. Ce matin, des habitants qui avaient passé la nuit en brousse commençaient à regagner leur domicile, précise le chef de chefferie de Bahemaboga.
Par ailleurs, au Nord Kivu, deuxième jour d'accalmie, c'est mardi dans la région de Minova, à la limite entre les territoires de Masisi et Kalehe au Sud Kivu. La population locale et les déplacés qui ont trouvé refuge dans ces milieux tentent de retrouver un peu de répit, mais la situation n'est pas encore rassurante, indiquent nos sources. Les échanges de tirs d'artillerie se font entendre par intermittence dans les collines où sont retranchés les rebelles. Les activités socio-économiques se déroulent timidement ces mardi. Jour des marchés à Minova, alors que ces marchés approvisionnent plusieurs agglomérations ainsi que la ville de Goma. Rappelons que les Wazalendo, appuyés par les FRDC et leurs alliés régionaux, continuent de faire pression pour arriver à déloger les rebelles du M23 dans les collines surplombant la cité de Sake, Minova et Bweremana, mais aussi plusieurs localités stratégiques des Masisi qui sont encore sous occupation de rebelles. Le chef d'état-major général du FRDC, le lieutenant-général Christian Tshuwewe et son homologue des forces armées ougandaises, UPDF, ont eu un tête-à-tête le lundi dernier au poste frontalier de Kasindi-Lubiria, à environ 90 km au nord-est de la ville de Beni. Au menu de cette rencontre, l'évaluation des opérations conjointes FRDC-UPDF, dénommées Shuja, dans les territoires de Beni au nord Kivu, ainsi que dans ceux de Mambasa et Irumu en Ituri. André Kitenge nous fait le point.
Cette rencontre entre les deux chefs d'état-major des armées congolaises et ougandaises avait pour but d'évaluer les opérations conjointes menées par les deux armées FRDC et UPDF contre les ADF dans la région de Beni et à Ituri depuis novembre 2021, en ressortir les points forts et les faiblesses. Sans être précis, le bilan présenté par les deux armées fait état d'un bilan de plusieurs commandants et combattants ADF neutralisés et d'autres capturés. Les deux chefs des armées ont convenu de mobiliser les moyens nécessaires afin d'accélérer les opérations en cours pour rétablir la paix dans la région de Beni et dans une partie des territoires d'Irumu et de Mambasa en Ituri. Selon le porte-parole sortant des opérations Sokola 1, de nouvelles stratégies ont été mises en place par les deux chefs d'état-major en vue de relever les défis entravant la traque des rebelles des ADF dans la zone. Signalons que cette rencontre de haut niveau est intervenue 3 jours après celle tenue à Beni par le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements des FRDC et le commandant des forces terrestres de l'armée ougandaise, le général-major Dick Olum. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Tchad, c'était les jours des votes ce 6 mai 2024 avec une présidentielle cruciale censée sortir ces pays des trois des transitions ponctuées de nombreuses crises. Vote qui s'est passé généralement dans les calmes. Plus de 8 millions d'électeurs inscrits avaient à choisir entre 10 candidats dans plus de 25 000 bureaux des votes où la clôture du scrutin devait être suivie immédiatement par les dépouillements des bulletins des votes. Des bulletins qui suivent un circuit avant la publication des résultats.
L'invité.
Le plan de travail de l'UNICEF pour l'exercice 2023-2024 a été adopté dernièrement à Kisangani. Ce plan concerne aussi bien la province de la Tchopo que celle du Bas-Zouélé. Quels sont les axes d'intervention retenus? Qu'est-ce qui n'a pas été fait l'année dernière et qui pourrait être réalisé au cours de cet exercice? Et quelles sont les difficultés rencontrées pour sa mise en œuvre? Mokhtar Anne, chef de bureau de l'UNICEF Kisangani, s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Monsieur le chef de bureau de l'UNICEF Kisangani, bonjour.
Oui, bonjour.
Le plan d'action pour l'exercice de 2024 a été élaboré dernièrement avec le concours de vos partenaires. Quelles sont les actions retenues pour cet exercice?
Il s'agit plutôt du plan de travail roulant 2023-2024 que nous élaborons avec nos partenaires, que nous présentons aux autorités, mais également à tous nos partenaires de mise en œuvre. Tout ce que nous allons faire au cours de cette période 2023-2024. Nous avons eu la chance d'avoir cette fois-ci le président de l'Assemblée provinciale qui est venu ouvrir cet atelier, mais également le gouverneur de province et plusieurs députés et ministres provinciaux qui se sont déplacés pour venir voir exactement qu'est-ce que l'UNICEF prévoit dans la Tchopo.
Concrètement, en quoi consiste votre intervention dans les différents domaines?
Et nous appuyons le gouvernement provincial, mais également nous travaillons avec les organisations de la société civile, mais également avec nos ONG partenaires qui nous assistent pour appuyer les populations, les femmes et les enfants au niveau des ces deux provinces. Donc voilà, c'était pour nous l'occasion de présenter qu'est-ce que nous avons comme budget, qu'est-ce que nous avons comme activité au cours de cette période 2023-2024 et de recueillir les avis des uns et des autres, leurs critiques, mais également leurs recommandations pour pouvoir corriger les lacunes éventuelles qui pourraient se découler de nos activités dans les deux provinces.
Quelles sont les actions qui n'ont pas été réalisées l'année dernière et qui pourront l'être peut-être cette année?
Alors, pour cette année, je pense que on est encore au mois de mai. On devrait aller jusqu'en décembre. On va avoir le même exercice où on va discuter avec tous nos partenaires éventuellement pour voir qu'est-ce qu'on avait prévu de faire en début d'année et qu'est-ce qui n'a pas été réalisé. Ça nous permettra de corriger un peu ce que nous sommes en train de faire. Et comme vous le savez, le cadre de coopération pour cet exercice est en train de prendre fin en décembre 2024. Donc on vient de signer encore un nouveau document de programme pays avec le gouvernement de la RDC qui va couvrir la période 2025 à 2029. Donc dans cette période, ça nous permettra de corriger un peu les lacunes que nous avons eues au niveau des domaines prioritaires de l'UNICEF, comme je l'ai dit tout à l'heure, la santé, la nutrition, l'éducation, la protection de l'enfant, ainsi de suite. Donc ça nous permettra de corriger un peu et de voir qu'est-ce qu'on a réalisé, qu'est-ce que nous n'avons pas réalisé, quel est le budget qu'il faudra mobiliser au cours du nouveau cycle de programme pour pouvoir atteindre le maximum de population sur le terrain et au niveau du Bas-Zouélé, mais également au niveau de la Tchopo que nous couvrons.
Monsieur le chef de bureau, comment procédez-vous pour arriver à élaborer votre plan? Est-ce que vous associez également les populations bénéficiaires?
Alors, ce sont des discussions participatives. Ce n'est pas qu'on l'UNICEF reste dans un bureau et puis élabore le document. Non. On demande l'appui de tous nos partenaires, que ce soit les partenaires au niveau du gouvernement provincial, mais également les organisations de la société civile, les ONG qui nous assistent. Et nous faisons en sorte que les populations cibles, on recueille également leurs avis. Comme vous le voyez, nous sommes très souvent sur le terrain. Moi, je reviens du Bas-Zouélé juste hier. On a eu à discuter avec tout un chacun là-bas, le gouvernement, nos partenaires, pour recueillir leurs préoccupations sur tout ce que nous sommes en train de faire dans la province. Donc oui, nous discutons avec les uns et les autres. Ça nous permet de corriger éventuellement les lacunes qui pourraient survenir au cours de cette période 2023-2024. Et ça nous permet également de mobiliser beaucoup plus de financement avec les bailleurs qui financent nos activités en réalité sur le terrain.
Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez sur le terrain?
Ce sont des difficultés logistiques, par exemple pour aller dans le Bas-Zouélé. La dernière fois, vous l'avez vu, ça nous a pris 5 jours pour aller à Bouta, 5 jours pour revenir, des conditions assez difficiles. communes. Et vous le savez, au niveau de la Tchopo, il y a également des urgences. Il y a un conflit intercommunautaire entre les communautés Mbolé et les Lingola que nous sommes en train de gérer avec beaucoup d'enfants malnutris, des enfants qui se trouvent dans les camps de déplacés, dans la ville même de Kisangani. Il y a également des inondations. On vient de mobiliser environ 700 000 dollars pour la réponse aux inondations dans la Tchopo, mais également le Bas-Ouélé. Il y a également les épidémies, vous le savez. Tout le temps, nous faisons des campagnes de vaccination polio pour rattraper les enfants qui n'ont pas été vaccinés. Et vous le savez, la Tchopo, énormément d'enfants, zéro dose. C'est la province qui a le plus grand nombre d'enfants non vaccinés en République démocratique du Congo. Et c'est des choses que nous sommes en train de corriger au niveau de la province.
Monsieur le chef de bureau de l'UNICEF Kisangani, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Mokhtar Anne, chef des bureaux de l'UNICEF Kisangani, s'entretenait avec Jacques Moukonkolé. Et c'est la fin de cette session d'information sur Radio Kapi, mise en onde par Jean-Noël Mokondo sous la supervision et coordination de Martin Sebujangwe et Élisée Tchikota-Tchivueta. Patience Ngalou Lambombo était à la présentation. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.